Parallèlement, Philippe de Poitiers s'aboucha avec le plus puissant baron de la région, le comte de Forez, beau-frère d'ailleurs du dauphin, et qui, par ses possessions, commandait la rive droite du Rhône. Jean de Forez avait fait les campagnes de Flandre, représenté plusieurs fois Philippe le Bel à la cour papale, et très utilement travaillé pour le rattachement de Lyon à la France. Le comte de Poitiers, du moment qu'il reprenait la politique paternelle, savait pouvoir compter sur lui. Le 16 juin, le comte de Forez accomplit un geste hautement spectaculaire. Il prêta hommage solennel à Philippe, comme au seigneur de tous les seigneurs de France, le reconnaissant ainsi détenteur de l'autorité royale. Le lendemain, le comte Bermond de la Voulte, dont le fief de Pierre-Gourde se trouvait dans la sénéchaussée de Lyon, plaça ses mains dans les mains du comte de Poitiers et lui fit serment dans les mêmes conditions. Au comte de Forez, Poitiers demanda de tenir prêt discrètement 700 hommes d'armes. Les cardinaux désormais ne bougeraient plus de la ville. Mais de là à obtenir une élection, il y avait encore loin. Les tractations piétinaient. Les Italiens, sentant que le régent était pressé de regagner Paris, raidissaient leur position. « Il se lassera le premier, » disait-il. Peu leur importait l'état d'anarchie tragique où sombraient les affaires de l'Église. Philippe de Poitiers eut plusieurs entrevues avec le cardinal Duèze, qui lui semblait l'esprit le plus vif du conclave, le plus imaginatif et décidément le plus souhaitable administrateur de la chrétienté dans le difficile moment où l'on se trouvait.
L'hérésie refleurit un peu partout, disait le cardinal de sa voix fêlée. Et comment serait-il autrement avec l'exemple que nous donnons? Le démon profite de nos discordes pour semer son ivraie. Mais c'est dans le diocèse de Toulouse surtout qu'elle pousse dru. Vieille terre de rébellion et de mauvais rêves, il conviendrait que le prochain pape cassât ce trop gros diocèse, mal aisé à gouverner, en 5 évêchés, chacun remis en main ferme.
Ceci, répondait le comte de Poitiers, amènerait à créer nombre de bénéfices dont notre trésor aurait à percevoir les annates.
Mais bien sûr, monseigneur.
Les annates étaient une taxe royale portant sur les bénéfices ecclésiastiques nouveaux et qui consistait en la perception des revenus de la première année. Or, l'absence de pape empêchait de procéder à ces créations de bénéfices. Et le trésor s'en ressentait d'autant plus durement que le clergé en général, profitant de ce qu'il n'y avait pas de chef, inventait toutes sortes de prétextes à ne pas acquitter les arrérages d'impôts. En fait, lorsque Philippe de Poitiers et Jacques Duèze envisageaient l'avenir, l'un comme régent, l'autre comme éventuel pontife, leur premier souci concernait les finances. À la mort de Philippe le Bel, la trésorerie française était gênée, mais non obérée. En 18 mois, par l'expédition de Flandre, la sédition d'Artois, les privilèges consentis aux ligues baroniales, Louis X et Valois avaient réussi à endetter le royaume pour plusieurs années. Le trésor pontifical, après 2 ans de conclave errant, ne montrait pas un meilleur état. Si les cardinaux se vendaient si cher aux princes de ce monde, c'est qu'ils n'avaient plus, pour nombre d'entre eux, d'autres moyens de subsistance que le négoce de leur voix.
« Les amendes, monseigneur, les amendes !» conseilla Duèze au jeune régent. « Frappez d'amendes ceux qui auront méfait, et plus ils seront riches, plus fortement les frapper. Si celui qui manque à la loi possède 20 livres, exigez qu'il en verse une. Mais s'il en possède 1000, prenez-lui-en 500. Et s'il est riche de 100 000, ôtez-lui tout. Vous y trouverez 3 avantages. D'abord, le rapport sera plus gros. Ensuite, le malfaiteur privé de sa puissance n'en pourra plus faire abus. Enfin, les pauvres, qui sont le grand nombre, seront de votre côté et auront confiance en votre justice.